Libre 20 avril 83, Rimou.
Prions pendant le passage du Père Abbé au milieu de nous. Prions la Vierge Marie pour lui et puis pour la communauté. N'oublions pas que il est notre supérieur et que c'est quand même grâce à l'Hérens que la communauté a pu naître. Alors je crois qu'il faut, dans la mesure du possible, même s'il n'y a rien de grave, hein, le Père Abbé est très sensible, n'hésitez pas d'aller lui dire un petit bonjour, qu'il puisse vous voir personnellement, il aime bien cela. C'est un homme qui est sensible aux moindres petites marques d'affection, et je crois que c'est bien. Mais même s'il n'y a rien, je ne sais pas, dire, mon père, je tiens à vous dire que ça va bien. Mais je veux vous dire bonjour, qu'on prie pour vous, et que les deux communautés sont très liées. Je crois que c'est bien, vous voyez. Alors faites que pendant, par exemple, s'il y a les cours continuent, c'est évident, on ne va pas mettre vacat à cause du passage du Père Abbé, parce que le Père Marie-Alain ferait de gros yeux, ça n'irait pas. Mais moi, ça m'irait très bien, parce que... Mais on ne peut pas faire ça. Mais que... il y ait quand même une petite, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, une espèce de petit moyen pour que pendant les cours, le Père Abbé n'ait pas l'impression qu'il y a un arrêt. Oui, je ne sais pas combien de frères il a déjà vu. Je ne veux pas faire de contrôle, mais il reste jusque vendredi, je crois, vendredi après-midi. Vendredi matin. Il n'y a plus que demain. Il y en a combien? Non, je ne veux pas demander ça. On est qui nous doivent encore. Non, je dis ça, c'est parce que je crois, pendant les cours, que ceux qui n'assistent pas aux cours peuvent peut-être pendant ce temps-là y aller. Il y en a quand même pas mal qui n'assistent pas aux cours. Ils peuvent facilement à ce moment-là y aller pour lui dire un petit bonjour, et puis qui est quand même que la majorité de la communauté, la grosse majorité, puisse lui dire combien on est unis profondément. Je crois que c'est un devoir de reconnaissance et puis d'affection par rapport à lui. Il faut aussi que nous sentions davantage notre unité. Chaque fois qu'on sent un tout petit peu des petits coups, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, du démon, il faut qu'on soit encore plus profondément unis. On fait une œuvre commune. Et parce qu'on fait une œuvre commune, il faut sentir que c'est vrai. Ce n'est pas commode, et que sûrement le démon est là attentif pour utiliser les moindres bêtises, les moindres manques d'attention, de sollicitude ou de choses comme ça. Alors il faut qu'on soit encore plus attentif et encore plus unis. On peut l'être tout le temps, hein. Ferveur dans l'unité. Alors la ferveur dans l'unité fait qu'on s'aime vraiment très très profondément, et qu'on essaie ensemble de se servir de tout cela comme des permissions que Dieu fait pour à la fois être plus pauvre, plus petit, mieux comprendre notre vocation dans le cœur de Marie. Et sûrement que Marie nous demande d'être encore plus pauvre, plus dépouillé. C'est si facile, hein, de regarder les petites réussites Et alors on s'enorgueillit un tout petit peu. On orgueille, on se vante un peu, quoi. C'est la grosse vanité, hein. On n'est quand même pas si mal. Alors, il faut à ces moments-là, au contraire, comprendre que la Sainte Vierge nous demande d'être dans une attitude de plus grande pauvreté, d'humilité, de vraie petitesse évangélique. C'est bon, sans du tout tomber dans une espèce de mélancolie, hein, surtout pas, on ne va pas faire ça du tout. Faut mettre les choses à leur place. Hein. Vous savez, la sœur de la mère de Saint-Louis, hein, quand il n'y a pas de faute, petite faute d'orgueil est bien plus grave. Des trucs comme ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Je me souviens, c'était un bon père dominicain. Quelquefois, il y a des perles, hein, dans tous les ordres, c'est comme ça. Alors, il disait, c'était un moment où il y avait eu pas mal de choses. Il disait au chapitre, ça m'est resté, parce que ça, c'est des choses qui restent. On n'a jamais tant parlé de nous. Alors, on ne savait pas si c'était en bien ou en mal. Ça n'a aucune espèce d'importance. On n'a jamais tant parlé de nous. Là, c'était le maximum, comme si le maxime étalé dans l'ordre. Il faut justement essayer d'aimer qu'on parle moins de nous. Je crois que c'est souvent ce qu'on doit faire. Essayer d'aimer qu'on soit plus caché. Je sais bien que c'est impossible quand on est un gros groupe. Hein. Un mouton peut passer inaperçu, mais quand il y en a 80, c'est plus difficile. Quand il y en a 120, c'est plus difficile. Et quand ça augmente, c'est encore plus difficile. Alors, il faut essayer de prendre une attitude de vérité. Et quand il y a des occasions comme celle-là, je crois que c'est bon de s'humilier en face de Dieu, de dire oui, oui, c'est bon. D'accepter de recevoir un coup de gifle, d'accepter de recevoir une petite... que les gens de l'extérieur ont de la peine à comprendre. Je comprends très bien. Il faut leur dire aussi qu'on a de la peine à comprendre. C'est bien évident. C'est impossible. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça ne touche pas ce qu'il y a de plus profond en nous. Et ce qu'il y a de plus profond en nous demeure caché. Et il faut toujours le dire. Une vie religieuse, une vie monastique, une vie contemplative ne se découvre que de l'intérieur. Et uniquement de l'intérieur. Le paraclet que le monde ne peut pas recevoir parce que justement il ne le voit pas. Et le paraclet de Saint-Esprit, on reçoit de l'intérieur. Et notre vie, dans ce qu'elle a de plus grand, de plus profond, elle est vécue de l'intérieur. Et elle demande d'être vécue de l'intérieur. Et de temps en temps, on veut un petit peu manifester, je comprends, c'est normal. Mais il faut que ce soit vécu de l'intérieur. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. L'essentiel de notre vocation, personne ne peut l'enlever. Parce que c'est le don de l'Esprit Saint. Alors, c'est bon, à certains moments, vous voyez, de mieux comprendre l'absolu de notre vocation. Quelque chose d'intérieur. Quelque chose qui demande d'être vécu de l'intérieur. Et puis, ces choses plus extérieures, on les porte, et on les porte tous les uns avec les autres, en sachant que ça n'a pas grande importance, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Après une bêtise, il y a d'autres bêtises. N'est-ce pas ? Il y a la première bêtise est cachée par l'autre bêtise. Et alors, c'est successivement comme ça. Le tout, c'est qu'on en profite divinement. C'est ça qu'il faut. Profiter divinement, qu'on profite divinement de ce qui va bien et qu'on profite divinement de ce qui peut être certaines petites blessures pour qu'on puisse aller plus loin dans l'amour du Christ. Nous allons continuer, si vous voulez, cette recherche de notre vie dans le cœur de Marie. Comprendre ce que nos évêques nous demandent de préciser, vous voyez, nous avons précisé ensemble le charisme de la communauté Saint-Jean. Alors, arriver à bien préciser le charisme de la communauté Saint-Jean en regardant Marie. Une vie monastique, contemplative, un rayonnement apostolique. C'est une formule qui nous a été donnée, hein, paraît-il, par l'archevêque de Rouen, en disant « si vous dites ça, tout le monde sera tranquille ». Alors c'est merveilleux, parce que c'est ce qu'on désire, n'est-ce pas ? On désire mener une vie monastique, contemplative, c'est sûr. Vie monastique, c'est-à-dire une vie religieuse pleinement vécue, c'est ça que ça veut dire. Pas une vie religieuse à moitié, mais une vie religieuse pleinement vécue. Alors on dit monastique, c'est ça que ça veut dire. Le moine, il est seul avec Dieu. Mais seul avec Dieu, avec la charité fraternelle, hein, en emportant tous ses frères. C'est bien évident, comme Saint Bernard, en emportant tous ses frères, et il est bien monastique, hein, Saint Bernard, mais il emportait tous ses frères, et il continuait de les emporter après. Et c'est ça qu'on fait, on est seul en face de Dieu, et on emporte tous les autres avec soi. Et puis rayonnement apostolique, ça veut dire que notre souci, vous voyez, n'est pas de chercher une efficacité immédiate. Notre souci est de porter la communauté chrétienne, le peuple chrétien. On est lié au peuple chrétien et on aime le peuple chrétien et on porte ses désirs et tous ses appels. Et je crois que c'est ça qui maintient en nous ce zèle apostolique, un très grand zèle apostolique, un zèle apostolique qui doit brûler notre cœur comme il brûlait le cœur de Catherine de Sienne. Et Catherine de Sienne, c'était bien ça. C'était un zèle apostolique qui la brûlait et qui faisait que porter tous les pauvres. Le zèle apostolique d'un saint Dominique qui passait ses nuits en prière, je ne vous demande pas de le faire, mais c'était ça son zèle apostolique. Les hommes voient les autres choses, mais non, qu'on ait une vie contemplative, enracinée dans une vie monastique, en sachant qu'il y a tout ce rayonnement et qu'il doit y avoir ce rayonnement et être prêt au service de telle action apostolique qui nous sera demandée. Être vraiment de plus en plus caché dans le cœur de Marie, puisque c'est dans le cœur de Marie qu'on doit découvrir cela. Et le renouveau que Dieu nous demande, que le Saint-Père nous demande, doit être vécu à l'intérieur du cœur de Marie, doit être vécu dans le cœur de Marie. Et c'est ce que nous essayons de faire, voyez, ensemble. Je vous parlais de la dernière fois du Magnificat qui pour nous doit être ce renouveau de vie liturgique. On en a parlé au réfectoire, on a fait quelques bonnes petites allusions, n'est-ce pas, de ce que représente le point de vue de la vie religieuse, de la vie monastique, de la vie liturgique. C'est vrai, il y a toujours un équilibre qu'on doit comprendre, mais avec un ordre aussi voulu par Dieu. Il est sûr que nous mettons très fort l'accent, et c'est bien, et j'en suis tout à fait d'accord, sur ce point de vue du silence, de la prière d'oraison, de la prière contemplative. Nous devons tous demander à Dieu la grâce de la contemplation. Il a demandé à la Très Sainte Vierge. Il demandait tous les jours, ça, la grâce de la contemplation. Parce que c'est important. Si on le demande tous les jours, Dieu nous la donnera. Et nous en avons absolument besoin pour être fidèles. On ne pourra pas être fidèle à la vie dans laquelle nous sommes engagés s'il n'y a pas la contemplation. Parce que la contemplation nous fera comprendre que Dieu est là présent. Et c'est la contemplation, vous voyez, qui maintient en nous la soif de la doctrine, la soif d'une recherche de vérité. Chacun à son niveau, du reste, hein. Mais c'est aussi très important, on ne peut pas séparer les deux. Sedes sapientiae, Marie, siège de la sagesse. Et nous avons souvent demandé ça. Grignon de Montfort aimait tellement la sagesse de Dieu, parce qu'il comprenait que Marie et la sagesse de Dieu, ça se tient. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas vraiment avoir un amour de la sagesse sans que Marie soit là présente, sans que Marie nous aide à entrer pleinement et totalement dans ce grand mystère de la sagesse divine. Alors il faut que nous ayons cette soif de contemplation, cette soif de vivre de la doctrine divine, de la doctrine de l'Église. En vivre, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose dont on vit. Il faut vivre en suivant, du reste, l'année liturgique, et cette année sainte, en vivant spécialement le mystère de la rédemption. Et ça, je crois que nous devons le vivre très très fort, puisque le Saint-Père nous le demande. Il faut que nous comprenions un tout petit peu que ce mystère, c'est l'avantage de ce mystère, c'est qu'il est le centre de tout. Alors il rayonne sur tout. Et comprendre à partir de la contemplation et à partir de cette soif de doctrine, comprendre la vérité de notre vie liturgique. Et je dis bien la vérité de notre vie liturgique, on insistait tout à l'heure. C'est très important que notre vie liturgique soit l'expression de notre amour pour le Christ. On est tous à regarder Jésus pendant qu'on dit les psaumes, pendant qu'on chante les hymnes, on regarde Jésus. Et on est attentif au mystère de la très sainte Trinité. Et c'est le mystère de la très sainte Trinité que nous adorons, que nous louons, que nous aimons. Le Magnificat de Marie, comme c'est vrai. Et comme le Magnificat de Marie donne tout ce que Marie porte dans son cœur, la joie extraordinaire. Marie a vécu de l'expérience de la miséricorde du Père sur elle. Et c'est parce qu'elle vit de cette expérience de la miséricorde du Père sur elle qu'elle peut chanter cette miséricorde, qu'elle peut la reconnaître. C'est dans la mesure où nous avons l'expérience de cette miséricorde de Dieu sur nous, de cette miséricorde du Père sur nous, qu'alors à ce moment-là nous pouvons louer, remercier. Chacun à notre façon, mais tous en même temps, autant que possible, n'est-ce pas ? Mais chacun à notre façon, c'est bien évident. C'est là où l'expression est toujours relative à l'aspect intérieur, puisque quand l'expression ne correspond pas à l'aspect intérieur, c'est à ce moment-là que le psalmiste dit que Dieu a horreur du sang des taureaux, du taureau et des boucs. C'est quand l'expression à l'extérieur dépasse le tonus spirituel intérieur. Alors ça, je ne dis pas ça pour les chantres, hein, parce que les chantres, ils sont en office, alors même s'ils ont l'impression d'être dans une tiédeur, il faut qu'ils chantent quand même. Hein. Et les autres aussi, du reste, ils fassent tout ce qu'ils peuvent, parce qu'il y aurait des jours, vous voyez, on aurait une espèce de... On veut être vrai, aujourd'hui, on est sec. Non, c'était... Non, on est en service commandé. La liturgie nous met en service commandé. Et on est en service commandé de par l'Église. Et nous sommes là pour toute l'Église et pour toute l'humanité. Nous faisons partie des 24 vieillards. Il ne faut pas l'oublier. Alors choisissez un à côté de vous, n'est-ce pas ? Mais on fait partie des 24 vieillards quand on fait les prières liturgiques. Et il faut voir ce que c'est que la liturgie des 24 vieillards dans l'Apocalypse. C'est quelque chose de très grand. C'est pour toute l'humanité. C'est pour ça qu'ils sont 24. C'est pour toute l'humanité qu'ils adorent. C'est pour toute l'humanité qu'ils reconnaissent le sang de Jésus. Qu'ils reconnaissent le mystère de la rédemption. C'est pour toute l'humanité qu'ils jettent leur couronne en face de Dieu. Jeter sa couronne en face de Dieu. Si à chaque office on jetait sa couronne en face de Dieu, ça irait plus vite, hein, dans la pauvreté et l'humilité. Parce qu'on jette sa couronne, et c'est vrai, dès qu'on est en face de Dieu, on est tous, petites créatures, pauvres petites créatures. Alors il faut entrer dans ce rythme particulier. C'est sûr que c'est pas commode, ça met du temps à devenir un homme liturgique. Mais il faut en comprendre la grandeur, ça met du temps, ça pousse, la vertu de religion, hein, On a parlé de l'acquisition des vertus. La vertu de religion est une chose qui s'acquiert. On devient un être religieux. Du dedans, hein, comprenez bien, parce que ce n'est pas la vie qui fait le moine. Ça fait quelque chose, mais ce n'est pas la vie qui fait le moine. Ça aide à faire que la vertu de religion pousse. Il faut que la vertu de religion pousse en nous et qu'elle nous donne ce sens de l'adoration, de la louange, de l'action de grâce. Avec Marie et en Marie, c'est Marie qui nous apprend à dire le Magnificat. C'est Marie qui nous apprend à reconnaître la miséricorde du Père qui nous enveloppe. C'est Marie qui met en nous cette joie qui doit venir de l'intérieur. C'est Marie qui doit nous apprendre à porter toute l'humanité en face de Dieu. C'est Marie qui nous apprend à reconnaître cette présence de la très sainte Trinité. Notre prière liturgique, elle est liée au Magnificat de Marie. Et il faut le comprendre, cela. Il faut que le Magnificat de Marie, pour nous, soit notre grande prière liturgique. Je ne dis pas de le réciter à chaque heure, parce que ça s'allongerait encore, mais c'est notre grande prière liturgique. Parce que le Magnificat, on aimerait savoir à qui Marie l'a communiqué en premier lieu. Vous savez bien. Et donc, ça doit être aussi pour nous, en premier lieu. Et par Jean, ça a été Luc. Et c'est d'abord Jean. Et le Magnificat a été donné à Jean. Et le Magnificat ayant été donné à Jean pour qu'il en vive, comme le Magnificat nous est donné. Et Marie nous le donne. Il faut le recevoir de Marie. Et quand vous chantez à Vêpres, demandez à Marie de vous le donner. Chantez-le avec elle. Il faut s'habituer. Si vous étiez à côté de Marie qui chante le Magnificat, hein, vous auriez l'oreille fine à ce moment-là pour ne pas la devancer et faire que vous soyez uniquement acolyte de son chant, uniquement celui qui accompagne et qui est là tout proche. Je crois que nous devons entendre la liturgie de Marie au ciel. Parce qu'elle est celle hein, qui est la première chantre. Je ne dis pas premier solo, mais première chantre, hein, dans le sens. Et je crois que quand elle chante le Magnificat, vous savez, les saints le disent avec elle, mais la laisse quelquefois seule, c'est tellement plus beau. Hein. Elle le dit avec un tel amour. Alors, le Magnificat, elle vous demande ici d'être son écho sur la terre et de manifester cela. Je me souviens du Magnificat que j'ai entendu en Afrique par des petites carmélites. C'est tellement beau. Parce qu'on sentait très bien que tout le chant des Vêpres prenait son sommet au Magnificat. Il y avait une espèce de montée. Puis alors, Magnificat, comme c'était des carmélites africaines, qui manifestaient aussi par leurs gestes et leurs danses leur amour. C'était très beau, c'était très grand, mais d'une sobriété, hein, d'un classicisme merveilleux, pas du tout des gestes hauts, c'était plus, j'allais dire, la taille du Père, mais il y avait une montée, et tout le Carmel à ce moment-là était un autour de l'autel. Toutes les petites carmélites enveloppaient l'autel, elles étaient autour de l'autel, avec leur grande manifestation de leurs mains. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau comme chant du Magnificat, comme limpidité du Magnificat. Ces petites carmélites qui d'habitude ne manifestent pas beaucoup. Mais là, on avait l'impression que c'était le moment où elles manifestaient. c'était le Magnificat. Marie était là présente. Alors on ne peut pas faire ça ici, vous voyez, ce serait de la copie, c'est impossible, c'est, on ne peut pas faire ça, ce serait, on n'aurait pas la grâce qu'il faut, vous voyez. Alors vous connaissez la fable de la fontaine, alors ça ne va pas du tout, ça n'irait pas, on n'a pas à copier, mais on a à découvrir chacun d'entre nous, alors ça oui, on a à découvrir chacun d'entre nous le Magnificat de Marie. Et le découvrir de plus en plus. Et l'aimer comme la première liturgie chrétienne. Qui, vous savez bien, les exégètes nous le montrent, aucune originalité dans le Magnificat. On coupe en petits morceaux et puis vous mettez toutes les pièces. Hein. La grande originalité, c'est que Marie a tout recueilli dans son cœur et que ça jaillit de son cœur. Et c'est l'unité. Toutes les pièces, c'est comme ça l'originalité du point de vue de la liturgie. Si on cherche l'originalité pour l'originalité, c'est faux. Ça doit jaillir notre cœur. Il faut que notre cœur soit suffisamment aimant, tout proche du cœur de Marie, brûlant avec le cœur de Marie. Il faut demander ça quand nous chantons les vêpres. Que notre cœur soit brûlant avec le cœur de Marie. Pour que le Magnificat prenne une force, une intensité d'amour, comme une grande montée. Je suis persuadé que Marie attend un peu ça de la communauté. Qu'il y ait quand même hein, des moments. Il y a le Salve Regina, c'est évident que nous chantons auprès d'elle, et elle est là pour nous écouter. Mais le Magnificat, c'est avec Marie glorifier le Père. La petite enfant immaculée du Père, qui chante son Magnificat. Il faut qu'elle mette dans notre cœur cet amour du Père, cet amour de la miséricorde du Père, pour que cet amour de la miséricorde du Père nous enveloppe tellement que nous soyons des âmes vibrantes d'amour, comme elle, pour ce Magnificat. On peut tous les jours, et on doit tous les jours demander à Marie de nous apprendre à vivre de son Magnificat. Vous savez bien qu'après le Magnificat de Marie, il faut essayer de comprendre le grand mystère de Noël. Et le grand mystère de Noël dans notre vie, contemplative. Nous avons déjà dit à l'Annonciation, c'est un mystère de contemplation. Noël est un autre mystère de contemplation. Et la croix en sera un autre. Vivre de la contemplation à travers le cœur de Marie et dans le cœur de Marie, c'est comprendre justement que la contemplation, elle a des modalités infinies. Puisqu'il n'y a pas de méthode, vous comprenez. Autrement dit, ce n'est pas quand vous avez fait une bonne oraison, vous dites, maintenant j'ai compris, ça y est, ça va être comme ça pour toute l'année, ça va recommencer toute l'année. Si vous faites ça, le lendemain, c'est sec comme de la trique. Alors que vous aviez fait une oraison extraordinaire. Il n'y a pas de méthode d'oraison, il faut renouveler le feu tous les jours. Tous les jours, le feu doit être renouvelé, le feu de notre oraison, le feu... Cette flamme d'amour que Jésus met dans notre cœur, ce feu nouveau, il faut qu'il soit renouvelé tous les jours. Alors il faut comprendre qu'il y a le secret de l'Annonciation. Et c'est ce qu'il y a de plus intime et de plus profond. Marie qui porte le secret du Père. Et c'est la contemplation dans son état premier, de réceptivité. On reçoit. On reçoit le secret du Père et on le vit comme un secret d'amour. Mais la contemplation peut prendre cette note spéciale de la contemplation de Noël. C'est tout à fait différent. une contemplation dans une grande pauvreté, puisque de fait, Joseph et Marie sont rejetés de Bethléem. Ils sont des pauvres au sens évangélique. Ils sont des pauvres, c'est-à-dire des petits. On ne fait pas attention à eux. Parce que, de fait, il n'y a pas d'apparence. Pas d'apparence extraordinaire. Ils sont de la descendance de David. Mais vous savez, comme dans les grandes familles, il y a des branches appauvries. Alors ils sont eux appauvris. Donc ceux auxquels on ne fait pas attention. Il devait y avoir des descendants de David très très bien. C'était sûrement des gens plus influents auxquels on fait attention. Alors pour eux, on a tout réservé. C'est toujours la tentation permanente. C'est de faire des hôtels de première classe, de seconde classe. Sans parler de la cinquième classe, c'est ça, qui est justement les derniers. Non, nous devons essayer. Des hôtels de première classe, de seconde classe, sans parler de la cinquième classe, c'est ça, qui est justement les derniers. Non, nous devons essayer de vivre la manière de Marie et de Joseph, des pauvres. On est de la race de David. C'est bien évident, on est de la race de David. Dans l'Église, la race de David, c'est la vie religieuse. Vous savez bien. Il y a de la race de David qui dort très bien pendant le jour de Noël. Il y en a qui sont éveillés. Il faut être tout proche de Marie, tout proche de Joseph, autrement, on dort. Mais la race de David dans l'Église, c'est bien la vie religieuse. Il faut aujourd'hui comprendre la noblesse de la vie religieuse. Parce que quelquefois, on ne la comprend pas. Il faut la comprendre. Une noblesse intérieure, une noblesse d'amour, mais une noblesse. Une noblesse parce qu'on donne tout. Et parce qu'on veut tout donner. C'est pour ça qu'on est religieux. Mais on est de la race de David. Vous voyez bien, demandez à la Sainte Vierge, je vous ferai comprendre ça tout de suite. Que vous êtes de la race, et Saint Joseph encore mieux, il fera encore mieux comprendre que vous êtes de la race de David. Parce que vous êtes justement totalement consacré à Dieu. Et c'est ça que nous fait comprendre Bethléem, vous voyez. C'est que, de fait, parmi les descendants de David, évidemment là c'est selon la chair et le sang, il y en a qui ne sont que selon la chair et le sang. Les vrais descendants de David, ce sont ceux qui vit la promesse, comme les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui vivent de la foi. Il y a la foi et la promesse. Il y a Abraham et David. Et David, c'est la promesse, c'est l'espérance. C'est la promesse de cette royauté qui doit durer toujours. Nous sommes de cette race-là, nous sommes liés à cette promesse. Promesse qui fait que nous devons être à l'avant-garde de la réalisation de la promesse. C'est pour ça que la vie religieuse et la vie monastique a ce caractère eschatologique. Parce que nous attendons le retour. Et on voit bien que les vrais descendants de David, c'est Marie et Joseph, sont les vrais et purs. Ceux-là attendent. Ceux-là sont les premiers à recevoir Jésus. Mais dans la pauvreté, ils doivent accepter de ne pas être compris des autres. Ils doivent être acceptés d'être mis un peu en dehors. C'est peut-être ça, vous voyez, le grand secret de la petitesse évangélique et de la pauvreté évangélique. Accepter de ne pas être compris et d'être mis un peu à l'écart. Pour qu'il y ait une intimité plus grande, une présence plus profonde de Dieu avec nous, l'Emmanuel. Grâce à la pauvreté, Marie a, durant cette nuit de Noël, avec Joseph, connut une présence beaucoup plus grande de celui qui lui est donné, de celui qui est le Fils bien-aimé du Père. Et la contemplation de Noël nous fait saisir, à travers la pauvreté, combien Dieu se fait proche, combien Dieu est intimement présent, combien Dieu est avec nous. C'est cette extraordinaire présence. Ça, c'est, on doit vivre de la contemplation de Noël. Ça fait partie hein, des grâces que la Très Sainte Vierge veut nous donner. Alors, pas seulement au temps de Noël. Hein. Pas seulement au temps de Noël. À Bethléem, elles vivent toujours du petit Jésus. C'est très beau. Elle s'appelle Bethléem, je comprends. Mais il n'y a pas que Bethléem, au Carmel, c'est comme ça aussi. On a un amour du petit Jésus extraordinaire. Alors, il ne s'agit pas d'avoir uniquement une dévotion au petit Jésus de Prague, n'est-ce pas, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comprendre que le mystère de Noël nous fait découvrir la présence dans la simplicité. C'est le mystère de la présence dans la simplicité. Noël, c'est le mystère de la simplicité de Dieu qui se donne à travers le regard d'un enfant, à travers les mains d'un enfant. C'est Dieu avec nous dans cette simplicité. Et c'est beau cela. Parce que ça fait partie de la contemplation chrétienne de découvrir la simplicité de Dieu, c'est-à-dire la pureté, la limpidité de son amour. Quand Dieu se donne, il se donne totalement. Nous, pas entièrement, hein, parce qu'on est complexe, on est multiple. Mais quand Dieu se donne, il se donne totalement, il se donne entièrement, il se donne jusqu'au bout. Il y a quelque chose de cette limpidité. Cette simplicité, c'est grand cela. Il faut essayer d'entrer dans cette contemplation de Noël. Il faut le demander à la Sainte Vierge. Évidemment, encore une fois, plus au moment de Noël, mais aussi durant toute l'année. Il y a des moments où on a besoin de cela. On a besoin de ce contact plus direct avec le tout petit enfant Jésus. Il nous est donné dans cette petitesse. Et il est pour nous. Et Marie le reçoit. Et Joseph le reçoit. Cette contemplation de Noël implique, voyez, une communauté. Mais dans la communauté, cette simplicité d'amour. Marie est seule avec Jésus. Joseph est seul avec Jésus. Ils sont quand même deux. Ce qui montre que la contemplation, quand elle est toute divine, elle n'est pas gênée de la présence d'un frère à côté de nous. C'est vrai, dans notre raison, nous ne sommes pas gênés de la présence d'un frère à côté de nous. Un Saint Joseph et nous, la Sainte Vierge, pas. Alors on n'est pas gêné de ça, on n'est pas gêné de cette proximité et de comprendre que l'enfant Jésus nous est donné. Il nous est donné pleinement et totalement. Le regard de Dieu sur nous, c'est le regard du tout petit enfant Jésus. La force de Dieu qui se donne dans la tendresse, qui se donne dans la simplicité de l'amour. Et il y a en plus de la contemplation, et c'est là où on voit le lien entre la contemplation et la liturgie. Noël nous fait comprendre les liens entre la contemplation et la liturgie. Pas l'annonciation. L'annonciation, c'est purement contemplatif. L'annonciation fait comprendre les liens de la contemplation et de la charité fraternelle. Et Noël fait comprendre les liens entre la contemplation et la liturgie. La liturgie de Marie. À Noël, ce sont ces gestes
Les premiers gestes de la liturgie chrétienne, ce sont des gestes maternels. Elle l'emmaillota. Elle le mit dans la crèche. Ce sont des gestes maternels. Ce qui fait comprendre, voyez, la simplicité de la liturgie chrétienne. Ce n'est pas la seule note, mais c'est une des notes de la liturgie chrétienne. Quand vous regardez la différence du temple et de la crèche, vous commencez à comprendre. Le temple était, il attendait la venue de Dieu, hein, le temple. Il était fait, c'était la maison de Dieu. Et c'est pas là où s'est réalisé le premier moment de l'incarnation visible. Et le premier moment de la contemplation chrétienne lié au premier geste de la liturgie chrétienne. Les premiers gestes de la liturgie chrétienne, vous voyez, le Magnificat est le premier geste. Toujours, la liturgie implique la parole, le chant. La liturgie implique le geste, la présence du corps. Quand on est dans la prière liturgique, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de se tenir n'importe comment. C'est vrai. Dans la dévotion, ça n'a pas d'importance. Si vous ne scandalisez pas les gens, ça n'a pas d'importance. Dans la dévotion, il y en a qui aiment mieux... qui ont des dévotions pour être étendues, d'autres qui ont des dévotions pour être accroupies, d'autres qui ont des dévotions pour être debout, d'autres qui ont des... ça dépend, hein, ça dépend. Mais dans la liturgie, on n'a pas le droit. Il y a une tenue, sans être, voyez, mobilisé comme quelqu'un qui est raide, comme un poteau mobile, il faut quand même avoir une tenue. Il y a une tenue liturgique. Il y a une tenue liturgique. Je pourrais vous regarder, je ne vous regarde pas. Mais je pourrais vous regarder. De temps en temps, je pense qu'il faudrait passer au-dessus avec un hélicoptère. Si chacun a sa bonne tenue, si c'est bien ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'il y a une tenue liturgique. Je n'ai pas le droit de prier liturgiquement n'importe comment avec un laisser-aller. Si vous êtes fatigué, évidemment, vous vous asseyez. Mais alors, à ces moments-là, il vaut toujours mieux prendre la place de l'assis. C'est comme dans les trains, l'utile de guerre. Alors, il y a l'utile de guerre qui a sa place là, réservée. C'est très bien, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il vaut mieux assister à l'office en étant assis que de dire « je suis fatigué, je n'y vais pas ». Non, 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 non. Vous pouvez assister même assis. La condescendance de Dieu va jusque-là. Alors vous pouvez assister même assis. Autrement, on est debout. On est assis aussi ensemble. On est debout et quand on est debout, on est dans une attitude de prière. Et quand on se met à genoux, c'est une attitude de prière, d'être à genoux. Et ça, c'est beaucoup plus la dévotion à genoux. Beaucoup plus. On voit bien ça. Et quand la dévotion disparaît, plus personne n'est à genoux. C'est très curieux. Mais on est à genoux quand même à certains moments de la messe, il y a la liturgie. Et il y a une manière d'être. Je crois que ça, il faut apprendre les gestes liturgiques chrétiens. Il faut les apprendre. Il y a une manière d'être, point de vue de notre corps. Ne disons pas que c'est... oui, c'est secondaire, je suis tout à fait d'accord, c'est pas premier, mais c'est essentiel, c'est secondaire mais essentiel. Tout notre corps prie. Et nous devons aimer notre corps pour qu'il prie. Et nous devons l'offrir pour qu'il soit le temple de l'Esprit Saint. Et il faut qu'il y ait cette attitude simple, profonde, de comprendre que notre corps est offert, il est assumé par les vertus théologales et par l'adoration intérieure. Il faut regarder souvent Marie dans la crèche. Il faut comprendre aussi hein, cette visite extraordinaire des petits bergers. Ça, ça fait partie de la liturgie. Mais si Marie était restée uniquement solitaire dans sa contemplation, ben, il n'y aurait pas eu cette visite des petits bergers. La liturgie est liée à la charité fraternelle, hein. L'exercice éminent de la charité fraternelle. Voyez, l'exercice éminent de la charité fraternelle de Marie. Avec Joseph, c'est facile, parce que Joseph, il comprend tout. Et puis Joseph, il vit la même liturgie que Marie, dans le même silence. Mais les petits bergers, c'est différent. Il y a un accueil. Simple, beau, grand. Il y a un accueil des petits bergers. Et les petits bergers ont quelque chose à apporter à la Très Sainte Vierge. Le message de l'ange. Marie n'a pas eu d'apparition de l'ange à la Nativité. Mais par les petits bergers, elle a reçu le message de l'ange. Et alors à ce moment-là, elle a été, j'allais dire, confirmée profondément dans son cœur. Elle a bien agi. Ces gestes spontanés de mère étaient transformés par l'Esprit Saint, par le don de piété. La spontanéité naturelle était enveloppée, transformée par le don de piété. Et c'est bien cela qu'indiquent les anges. Quand les anges réveillent les mages, réveillent les bergers, ils leur disent: vous reconnaîtrez le Messie à ce signe. C'est très beau de voir que les gestes liturgiques sont des signes de la présence du Sauveur. C'est pour ça qu'ils ne sont pas n'importe quoi. Parce que ce sont des signes qui indiquent la présence du Sauveur. Le Sauveur est là. Et l'ange l'indique par les gestes de Marie. Par nos gestes, quand ils sont vraiment des gestes liturgiques, nous sommes témoins de la présence du Sauveur. C'est pour ça que l'Église maintient cette prière liturgique comme un témoignage de la présence. Mais il faut que nous vivions cette présence. Il faut que nous recevions le don de Dieu et que nous vivions ce don de Dieu. Alors à ce moment-là, nous témoignons de la présence. C'est pour ça que la prière liturgique doit être rayonnante. Parce que nous sommes des témoins de cette présence cachée, cette présence mystérieuse de Dieu au milieu de nous, de Jésus au milieu de nous. Voyez comment cette prière contemplative de Noël, cette prière contemplative de Bethléem, dans le cœur de Marie, qui l'unit si fort au cœur du tout petit enfant Jésus, qui l'unit si fort au cœur de l'agneau. Comment cette prière contemplative, silencieuse, a son rayonnement dans les gestes, a son rayonnement dans le Gloria des anges. C'est aussi très beau ça. De voir que Dieu demande à Marie les gestes dans le silence et que Dieu demande aux anges le chant. Et les petits bergers communiquent cela. Il y a une plénitude hein, très très forte à Noël. Une plénitude de joie. C'est vraiment une plénitude de joie. C'est la contemplation chrétienne joyeuse, épanouissante. C'est la contemplation chrétienne dans toute sa... dans son printemps, si vous voulez. Mais ça peut revenir tout le temps, hein. Ne disons pas que c'est uniquement pour l'année. Non, non, ça peut revenir. Il y a beaucoup de printemps dans notre vie, heureusement. Et ça revient toujours avec la même force. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de joie. Nous avons besoin d'une contemplation joyeuse. Nous savons, nous devons le demander, ça. Il faut le demander, nous avons besoin de cela. pour un épanouissement intérieur. S'il y a cet épanouissement intérieur, alors il y a la joie, il y a l'accueil, ça va de soi le rayonnement. On n'a pas besoin de le chercher. Quand il y a cette joie, et ça nous devons le demander, ça fait partie, voyez, de ce que la Très Sainte Vierge veut nous donner. Elle veut nous donner cette contemplation joyeuse de la présence de Dieu au milieu de nous. Quand nous prions plusieurs ensemble, nous devons être dans la joie d'être plusieurs à prier ensemble, plusieurs à aimer et savoir que Jésus est l'homme illuminé et que c'est lui qui se donne, que c'est lui qui nous transforme. À demander cette grâce d'un épanouissement plus profond de vos cœurs dans cette contemplation joyeuse. Puissiez vraiment vivre pleinement, soit pas seulement passager, vous voyez, soit quelque chose d'essentiel, parce que c'est essentiel à notre vie. On ne peut pas s'en passer. On en a tous besoin. Et Marie le sait. Elle est gardienne de la joie, Marie, parce qu'elle est gardienne de l'espérance. Elle est gardienne de la joie. Et elle veut que nous ayons cette joie plénière en nous.